Écho d'économie.
L'actualité, c'est d'abord l'intensification des échanges commerciaux entre la province de Lunda Norte et le Kasaï central. Les prix des produits manufacturés et du carburant ont baissé. À la base, le nouveau pont construit sur la rivière Kasaï. Et nous ferons un tour dans l'ex-province de l'Équateur. Objectif, découvrir les résultats de la mission de contrôle des fonctionnaires et agents de l'État diligentée par le ministère du budget du gouvernement central. Mais avant cela, l'une des conclusions de la rencontre des opérateurs économiques du Burundi et de la RDC, la porosité des frontières entre ces deux pays serait la principale source de la contrebande et la fraude douanière. Bonsoir et bienvenue à tous. Le pont jeté sur la rivière Kasaï dans sa frontière avec la province de Lunda Norte en Angola facilite et intensifie les échanges commerciaux entre cette province et celle du Kasaï central. Le constat est fait par la société civile du territoire de Luisa. Celle-ci ajoute que les prix des produits manufacturés et du carburant connaissent une baisse par rapport à ceux de la ville de Kananga. Cette situation a entraîné la diminution du chômage parmi les jeunes de Luisa. Thomas Mutumbu le dit au micro d'André Kambala.
De l'autre côté de l'Angola, nous achetons 10 sacs de ciment à $100. Mais quand ça traverse de notre côté, nous avons moins 4 sacs de ciment pour $100. En carburant, ça n'en parlons même pas. Nous avons les 25 litres de mazout à 24 000 de la rivière Kasaï, donc au niveau de Kalambambouji. 25 litres d'essence à 28 000 francs. Et soit en contre-valeur, les 25 litres de carburant, que ce soit de l'essence ou bien de mazout, ça c'est échangé en contre-valeur d'un bidon de la boisson alcoolique. Intitulé Chicha. Il y en a beaucoup de choses qui se passent en troc là-bas. Nous avons encore des petites motos Nafang. Avec 3 bidons de la boisson alcoolique, vous avez cette moto-là qui facilite votre déplacement. Les jeunes se sont donné beaucoup sur le plan de développement, surtout en construction. Tout ce qu'ils reçoivent de l'Angola, et ils achètent des tôles, des pierres, ils se construisent des grandes maisons en étoile. Et aussi, il y a les matériaux de construction qui sortent facilement de l'Angola, tellement des tôles, des peintures et des ciments, comme je l'ai déjà cité.
Le port d'Anvers de Belgique est parmi les entreprises soumissionnaires pour des actions au sein des ports de la RDC. L'annonce a été faite hier dans la ville de Boma, à 120 km à l'ouest de Matadi, par le directeur général du port d'Anvers de Belgique. C'était à l'issue d'une audience lui accordée par le gouverneur du Congo central. Il souligne que le port d'Anvers a toutes les capacités pour améliorer les installations portuaires du Congo. Luc Arnout, directeur général du port d'Anvers, dans cet entretien avec Guy Roger Niampala.
Bon, le but de notre visite, c'est le jumelage entre le port d'Anvers et le port de Boma date déjà depuis beaucoup de temps. Et je pense que c'est important de se voir régulièrement pour vraiment continuer et renforcer cette amitié qui est entre la Belgique et le Congo depuis si longtemps. Je suis tellement heureux d'être reçu ici par Monsieur le Gouverneur et d'avoir cette discussion très ouverte et très constructive.
Au-delà du jumelage, le port d'Anvers est-il intéressé s'il y a appel d'offres pour acquérir des actions au sein de la SCTP, etc.
Bon, ce que je peux déclarer, c'est que on est candidat pour l'appel d'offres pour construction et l'opération du port de Boma, de Matadi et de Kinshasa.
Vous avez parlé également de...
On en a parlé un peu. Évidemment, on respecte la procédure qui va prendre un peu de temps, mais on est fortement intéressé de pouvoir développer ensemble avec les gens ici ces trois ports.
Et quels sont les atouts aujourd'hui du port d'Anvers? Qu'est-ce qu'il peut apporter pour les installations portuaires de la RDC?
Bon, le port d'Anvers, et je suis fier de dire ça, va passer cette année les 200 millions de tonnes. Donc je pense qu'à Anvers, on a quand même une expérience très forte pour gérer les ports, pour traiter les marchandises, n'importe quelles, les conteneurs, le vrac, le break bulk. Donc je pense que notre point fort, c'est quand même une expérience de gérer des ports d'une taille importante et avec une vision de pouvoir accroître le port même.
Merci, Monsieur le DG.
Avec plaisir.
C'est depuis près de 3 semaines que la mission de contrôle des fonctionnaires et agents de l'État diligentée par le ministère du budget du gouvernement central est à pied d'œuvre dans l'ex-province de l'Équateur. Quel constat les contrôleurs du ministère du budget ont-ils fait à l'issue de cette opération qui ne vise que dans un premier temps les secteurs de la santé, de l'enseignement primaire et secondaire, de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que le secteur des finances? Jean-Baptiste Ondefou est coordonnateur du contrôle pour l'ex-province de l'Équateur. Il répond au micro de Dominique Colombi.
Le travail que nous sommes en train de faire, c'est le prolongement de ce que nous avons fait à Kinshasa. Et la méthodologie est la même, c'est de confronter les listings aux listes déclaratives. Et il se fait que là-dedans, effectivement, nous découvrons qu'il y a des fictifs, il y a des déserteurs, il y a des gens qui sont en détachement qui continuent à bénéficier de la prime, il y a des doublons en quantité. Vous voyez par exemple le Grand Équateur, il y a quelqu'un qui est payé ici, il est payé à la Chopa, il est payé de l'autre côté vers le Nord ou Bangui, donc des histoires impossibles. Et sans compter ceux qui, quand bien même qu'ils soient alignés sur le listing, ne bénéficient jamais de leurs droits. Donc ce sont toutes ces anomalies que nous avons relevées. Il y a beaucoup de nouvelles unités et pour lesquelles nécessairement il faudrait que le gouvernement, avec ce que nous allons récupérer, envisage la possibilité de pouvoir le mécaniser. Il y a aussi les problèmes de frais de fonctionnement que nous sommes en train de suivre. Et dans certains endroits, effectivement, il est établi que les frais arrivent, mais ils n'arrivent pas à la destination appropriée. C'est-à-dire quelque part, l'argent est détourné. Nous avons les preuves, nous allons faire rapport à la hiérarchie qui va statuer.
Et que pouvons-nous savoir de la fonction publique congolaise, Daniel Tambinzoni?
Comprenons la fonction publique comme l'ensemble de toutes les administrations de différents ministères et services publics de l'État. Sa mission principale est de gérer le personnel de carrière des services publics de l'État. L'ordonnance numéro 80/215 du 28 août 1980 portant création du ministère de la fonction publique en RDC, le charge notamment d'élaborer le statut des agents de l'État, veiller à son application dans les différents ministères, examiner les recours introduits par les agents de la fonction publique, étudier les réformes des structures et l'élaboration des méthodes administratives, préparer les projets de loi, des ordonnances ou décrets-loi, des arrêtés émanant d'autres ministères, prendre des arrêtés d'exécution se rapportant aux matières susmentionnées. Dans la fonction publique, on distingue 3 catégories d'effectifs. D'abord, l'effectif organique. Ici, il est fixé par le cadre organique et budgétisé par poste et emploi identifié. Les fonctionnaires et agents de carrière hiérarchisés se répartissent en 3 niveaux, cadre de commandement, agents de collaboration et agents d'exécution. La deuxième catégorie comprend les effectifs en place. Ici, il s'agit du personnel affecté aux différents emplois correspondant à un grade statutaire. De ce fait, à un grade donné correspond un emploi. Et puis dans la troisième et dernière catégorie se classent les effectifs rémunérés. Ce sont tous les agents rétribués dont les noms figurent sur les listes déclaratives et fiches de paye. Les effectifs gérés par la fonction publique en RDC s'élèveraient aujourd'hui à 107 444 unités dans l'ensemble. À la fonction publique, la cotation se fait à 2 échelons de la hiérarchie. D'abord, le premier échelon est apprécié par le chef hiérarchique direct et le deuxième échelon définitif intervient au niveau du secrétaire général pour les agents de collaboration et d'exécution.
Écho d'économie. Au sud Kivu, la porosité des frontières entre la RDC et le Burundi est la principale source de la contrebande et la fraude. Le constat a été fait par les communautés burundaises et congolaises, parmi lesquelles les représentants des petits commerçants transfrontaliers. C'était dans un dialogue transfrontalier de 3 jours qui s'est clôturé hier à Eden City, à Uvira. Les chercheurs des ONG Adepaye de la RDC et Rema Ministry du Burundi, ainsi que les participants à ce dialogue, ont identifier plusieurs produits qui traversent illégalement de part et d'autre de la frontière. Cette faiblesse de ces deux États nécessite, d'après ces acteurs, un diagnostic clair et approfondi en vue de trouver des solutions. On écoute le coordinateur de programme au sein de l'ONG suédoise Institut
Vie et Paix, qui appuie ce projet. Lochi Muzaliwa, au micro de Sitongo Mamayabala.
Dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira, on a trouvé qu'on cultive beaucoup plus du chanvre, du cannabis, et qui est exporté à grande échelle vers le Burundi. Mais également les ressources minières. À Missisi, il n'y a pas de comptoir. À Baraka non plus, il n'y a pas de comptoir. À Ouvira, c'est à peine que tu peux trouver le comptoir. Lorsqu'un exploitant minier, un creuseur artisanal, a ses pépites d'or, il songe directement à aller vers le Burundi et il ne passe pas par des voies légaux. On a noté par exemple le passage de Kazimia vers Rumonge et de Rumonge ils remontent vers Bujumbura pour vendre leurs produits. Tous ces chemins-là ne sont pas contrôlés par les services tant du côté du Burundi que du côté de la RDC. Ces mêmes femmes sont sollicitées également par les seigneurs de guerre pour faire traverser les munitions, des tenues militaires, pour faire traverser même des armes. Et c'est ça ce qui rend très compliqué. Donc l'une des recommandations des participants était aussi de voir comment légaliser le commerce de certains produits peuvent passer par la frontière sans une certaine surtaxation, de manière à réduire le taux de cas de contrebande pour perpétrer la violence.
De l'autre côté, au Nord Kivu, l'ITIE en RDC a renforcé les capacités de plus de 30 agents et cadres du secteur minier artisanal dans l'est du pays. Ces derniers sont venus du Maniema, du Nord et Sud Kivu, mais aussi de l'ex-province orientale. La formation vise à les amener à connaître et déclarer ce qu'ils payent à l'État congolais comme redevances, taxes et impôts qui pourront être pris en compte dans le prochain rapport ITIE. Mais le secteur minier artisanal étant non structuré et certains sites de l'Est n'étant pas viables au processus de traçabilité des minerais parce que contrôlés par des porteurs d'armes et autres, comment l'ITIE pourrait-elle faire pour la collecte des données? Voici la réponse de Claude Kanda. Il est chargé de l'administration et finances au secrétariat technique de l'ITIE RDC. Il est au micro de Freddy Bikumbi.
Effectivement que le secteur est un peu complexe. Il fait intervenir plusieurs paramètres, mais l'ITIE va s'intéresser dans un premier temps sur tout ce qui est formel, parce que l'ITIE ne capte que ce qui est formel, ce qui est légal, si nous pouvons dire. Il faudrait que, d'abord, nous comprenions qu'est-ce que ce qui est légal rapporte au trésor public de ce secteur-là. Parce que bien qu'il y ait beaucoup de problèmes, il y a quand même des transactions qui se font légalement, des paiements qui s'effectuent, des taxes, des redevances, de toutes sortes. Nous allons nous focaliser sur les sites où l'État est présent. Parce que ce ne sont que les sites là où l'État est présent que nous pourrons avoir l'information dont nous avons besoin. Et les autres sites, ça c'est une autre paire de manches, il y a les structures bien adaptées qui s'occupent des autres aspects.
Écho d'économie, c'est fini pour ce soir. Une édition mise en onde par Hippolyte Kapanga et suivie par vous. Merci.